Bonjour et merci d'écouter Questions politiques tous les week-ends avec l'équipe du dimanche, Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions, Françoise Fressoz du journal Le Monde et Karine Bécard de France Inter. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour.
Fidèle au poste et prête à démarrer après-demain, ce sera mardi à 15h. Le Premier ministre dévoilera le plan de déconfinement de la France devant les députés. Dispositifs sanitaires, masques, tests, réouverture des écoles, réouverture des commerces, règles à suivre dans les transports. La liste est encore longue, très longue, de ces points qui restent à clarifier. Et en attendant, le débat politique s'intensifie, notamment sur la gestion de la crise par le gouvernement, sur l'après, notamment le redémarrage de l'économie, et puis sur la stratégie du déconfinement elle-même, du déconfinement elle-même. Deux invités dans l'émission jusqu'à 13h. D'abord le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, le député Les Républicains Éric Woerth. Et puis dans une demi-heure, rendez-vous avec le président de la commission de l'environnement et de la santé publique au Parlement européen, l'eurodéputé Renew Pascal Canfin. Pour réagir, pour intervenir, le hashtag Question Paul ou l'application mobile France Inter.
France Inter. Question politique, Ali Badou.
Bonjour Éric Woerth.
Oui, bonjour.
Merci d'être à l'antenne de France Inter. Beaucoup de questions à vous poser. La première, elle est peut-être simple et très compliquée à la fois. Est-ce que la France est prête pour le déconfinement ?
Honnêtement, je ne le sais pas. Je ne sais pas si elle est prête pour le déconfinement. Je pense que dans les esprits, elle commence à être prête sur le déconfinement économique. On a bien compris qu'il fallait retravailler. D'autres pays travaillaient plus que nous. Hein. Je le redirai.
Et on va y revenir.
Sur le déconfinement sanitaire, elle y est psychologiquement prête à partir du moment où, évidemment, les instruments, les outils de protection, les masques, les tests sont disponibles. C'est une question lancinante, c'est une question qui se pose depuis maintenant des semaines et des semaines, à laquelle le gouvernement doit maintenant répondre. Alors, clairement,
mais c'est votre boulot de député, Éric Woerth, celui de contrôler l'action du gouvernement. Vous n'en savez rien.
Non, je ne le sais pas. Parce que les ministres, d'ailleurs, visiblement, ont du mal à s'exprimer là-dessus. La conférence de presse du Premier ministre, il y a quelques jours, était assez peu claire sur le sujet. En tout cas, le Premier ministre ne peut pas, mardi, devant l'Assemblée nationale, dire qu'il y a des confinements sans dire comment, et sans dire comment, dans quelles conditions de sécurité sanitaire. Il faut qu'il y ait les conditions de sécurité sanitaire pour des raisons évidentes, mais aussi pour des raisons économiques. Personne ne retournera au travail s'il n'est à peu près pas certain que les conditions de sécurité ne sont pas respectées. Et ça devient vital de retourner au travail.
On va en parler dans un instant et je ne vais pas donner la parole à Nathalie Saint-Cricq, mais quand même une question puisque les Républicains ont présenté un contre-projet, un plan de déconfinement qui serait concurrent ou en tout cas complémentaire de celui que présentera le Premier ministre Édouard Philippe mardi. C'est un plan qui prévoirait d'aller encore plus vite que ce qui est prévu aujourd'hui par le gouvernement. Dès le 11 mai, les cafés, les hôtels, les restaurants pourraient rouvrir dans certains départements. Vous ne savez pas si la France est prête et si on en a les moyens d'arriver vite au déconfinement, mais pourtant, il y a urgence.
Oui, il y a urgence. Évidemment qu'il y a urgence. Non pas à retrouver exactement la vie d'avant, tout ça sera très progressif, mais il y a urgence à déconfiner, pardon d'y revenir, mais on y reviendra sûrement, oui. Sur le plan économique. Sinon, le chômage partiel, il va se transformer en chômage réel, et nous allons vivre un krach social. Donc il faut tout faire pour éviter cela. En même temps, en respectant et en mettant en œuvre des mesures de protection individuelle claires, sinon l'esprit ne pourra pas être respecté. Donc les Républicains à l'Assemblée nationale propose un certain nombre de choses. Nous sommes dans l'opposition, donc notre rôle, c'est évidemment de proposer. Oui. J'espère que le gouvernement s'en inspirera.
Nathalie Saint-Cricq.
Alors bonjour Éric Woerth, le conseil bonjour. Scientifique était hostile à la réouverture des écoles, Emmanuel Macron a quand même choisi de le faire. Je voulais vous demander, est-ce qu'en général, il faut s'émanciper un peu plus de l'avis des scientifiques, notamment comme le pense l'opposition pour des raisons économiques ?
Eric Woerth.
Oui, je pense que il faut que la vie scientifique et la vie des experts soient toujours publiques. Ça me semble être très très important. On est dans un débat de transparence, je crois absolue. Mais il y a aussi le choix politique, c'est-à-dire qu'on met en balance des contraintes et des avantages. Et puis on essaie de choisir la meilleure ligne de pente. Je pense qu'au départ, il y a eu trop d'avis médicaux et pas assez d'avis politiques. Les deux allant les uns avec les autres. On peut pas dire d'un côté tout le temps qu'on se méfie de la République des experts, qu'on se méfie aussi d'ailleurs de la République des politiques.
Oui.
Je pense qu'il faut mettre les deux et trouver le bon point d'équilibre. Le bon point d'équilibre, c'est d'envoyer un message clair du redémarrage de l'activité économique dans les meilleures conditions possibles.
Françoise Fressoz.
Le déconfinement s'annonce comme une opération à la fois politique et technique très compliquée. Et on est sans arrêt en train de s'interroger, est-ce que vous êtes des spectateurs critiques ou des partenaires du gouvernement dans cette opération ?
Éric Woerth.
Écoutez, on est des, on a plutôt prôné l'unité nationale. On partage les mêmes objectifs et je partage évidemment les mêmes objectifs que le gouvernement et je pense que tous les Français, sortir le plus vite possible de cette crise sanitaire, faire redémarrer notre économie, éviter un engrenage qui pourrait être fatal. Enfin, un enchaînement terrible, une crise sanitaire provoquant une crise économique qui provoque un chômage et des inégalités, une poussée populiste et de nouveaux mouvements. Gilets jaunes. C'est au fond cela, si on ne sait pas éviter cet engrenage qui serait terrible pour le pays. Donc nous devons être unis autour de ces objectifs. Après, dans les modalités, dans les moyens, on peut évidemment critiquer beaucoup de choses. Je pense qu'il y aura une commission d'enquête, mais c'est pas le moment. Le moment, c'est d'essayer d'atteindre les objectifs de sortie le plus rapide de cette affaire et de retrouver aussi largement le chemin du travail. Sinon, on va décrocher vis-à-vis d'autres pays.
Mais les moyens engagés
sans risque sanitaire.
Les moyens engagés.
Oui à l'unité. Oui à l'unité. Oui à l'unité nationale. Oui aussi à la liberté de parole. Oui à la liberté de proposition. Et l'unité, ça marche dans les deux sens. Le gouvernement, il doit être aussi un peu uni avec l'opposition et l'écouter, notamment. On ne dit pas que des bêtises, je voudrais juste le rappeler.
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous écoute, mais je le dis gentil. En souriant. Ouais. Les moyens engagés par le gouvernement, notamment pour sauver les entreprises, leur permettre de traverser la crise, essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de casse économique, est-ce qu'il vous semble suffisant ces moyens-là ou est-ce qu'il aurait fallu frapper encore plus fort ?
Non, je pense qu'ils sont suffisants. Ils sont déjà relativement forts. C'est des mesures de soutien au fond artificiel à l'économie, lui permettant. C'est une économie arrêtée, dont on décide l'arrêt. Tout le monde l'a bien compris. Donc c'est pas une crise économique en tant que telle. C'est la crise sanitaire qui développe la crise économique pour permettre de lutter contre la crise sanitaire.
Oui.
Donc il y a un moment donné, on peut pas nationaliser la moitié des salaires des Français parce qu'on n'en a pas les moyens, évidemment. Financiers que on prépare à ce moment-là d'autres lendemains qui déchantent et notamment un chômage très important. Le chômage partiel, c'est au fond l'antichambre soit de la reprise, soit l'antichambre du chômage réel. Donc faut éviter cette deuxième
jusqu'à
cette
quand
deuxième
est-ce qu'on pourra le poursuivre justement, enfin soutenir ce chômage partiel.
Pour le chômage partiel, il faudra le lever, comme tous les autres instruments, progressivement et pas brutalement. Il va falloir accompagner les entreprises, accélérer la reprise par des mesures fortes de relance. Je peux les détailler si vous le souhaitez. Mais il faut aussi le faire progressivement, sinon ça fonctionnera pas. Donc oui, on a voté pour les deux budgets d'urgence économique. On l'a fait, on a fait des propositions qui n'ont pas toujours été entendues, mais globalement, c'est satisfaisant. Il manque un point de clarification, je pense, vis-à-vis du secteur économique, c'est le fait d'annuler les reports de cotisations sociales et de fiscalité qui, pour l'instant, n'ont été que reportés. On n'imagine pas du tout, au moins un instant, des petites entreprises devoir payer en juin, en juillet ou en septembre des charges du passé, alors qu'elles sont incapables encore de payer les charges de l'actualité, du moment où elles les paieront. Donc on peut pas faire deux fois cela. Donc il faut les annuler et il faut être très clair avec elles. Alors, tout ça coûte très cher, mais c'est la nécessité, c'est nécessité absolue. Et donc la seule solution pour payer tout ça, c'est évidemment d'accélérer la reprise naturelle, d'aller plus vite qu'une reprise naturelle et lente.
Karine Becker.
Alors justement, le gouvernement a décidé d'accélérer le tempo. Son plan de déconfinement, on l'a dit, sera présenté mardi par Édouard Philippe devant les députés. Est-ce qu'il a bien fait d'accélérer ce tempo-là, puisque le 11 mai, après tout, c'est dans 15 jours. Donc est-ce qu'il a bien fait d'accélérer le tempo, le gouvernement ? Est-ce que vous êtes prêt, vous, à voter sur un texte, ce plan de déconfinement, sur un plan que vous n'aurez pas étudié avant ? Et j'ai même envie de vous demander, qu'est-ce que ça dit de notre démocratie représentative en ce moment ?
Éric Woerth.
Ouais, il y a beaucoup de questions là-dedans. Moi, je suis assez favorable avec l'idée que le président de la République a eu en décrétant une date. Ça aurait pu être le 13, le 12. Il n'y avait pas de raison scientifique, mais il a indiqué une date suffisamment proche pour mettre de la pression sur tout le monde. Et je crois qu'il a eu raison, qu'il était dans son rôle. Maintenant, le gouvernement va présenter un plan. Pour l'instant, on n'a aucune idée du contenu de ce plan. Nous avions demandé il y a déjà quelques semaines qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale sur le futur plan de déconfinement. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on vote pas juste après le discours du Premier ministre, parce que, je pense que c'est un sujet qui est extrêmement grave. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. C'est aussi un sujet extrêmement sérieux. Donc le vote, il faut peut-être laisser 24 heures ou 48 heures aux parlementaires pour avoir un temps de réflexion et pour émettre un vote solide, un vote sérieux. Et je pense que le gouvernement serait bien avisé de laisser le débat aller et de passer à un vote, on le fait tout à fait régulièrement, de passer à un vote plus solennel 24 heures ou 48 heures après. C'est, me semble-t-il, la meilleure façon de concilier l'urgence et cette nécessité de démocratie parlementaire que vous évoquez.
Question très pratique, Éric Woerth. Faut-il, selon vous, offrir les masques puisqu'ils deviendront obligatoires et notamment dans les transports publics?
Oui, je pense que c'est mieux de pouvoir les offrir. Maintenant, il y a plein de gens qui sont capables de les payer eux-mêmes, donc c'est pas un sujet en soi. Je pense qu'il y a des personnes qui doivent être aidées, que cette crise révèle évidemment de nouvelles pauvretés, même si le revenu baisse moins en France que dans d'autres pays, compte tenu des mesures qui sont prises. Par exemple, les CCAS, c'est-à-dire les conseils d'action sociale, oui, des mairies, peuvent parfaitement bien repérer celles et ceux qui doivent avoir la gratuité des masques. Aujourd'hui, la priorité, c'est d'avoir la disponibilité des masques, ce qui n'est pas encore le cas, comme la disponibilité des tests, ce qui n'est pas encore le cas.
Nathalie Saint-Cricq.
Alors justement, comment est-ce qu'on peut concilier la volonté d'aller rapidement, ce que vous souhaitez, et la note de Bercy, par exemple, qui est dévoilée par le JDD aujourd'hui, dit que le 11 mai, on n'aura pas assez de masques grand public. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre la volonté ou politique économique et la réalité des faits.
Ce décalage, il existe depuis le début. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un discours parfois ambitieux, et puis derrière, l'incapacité. Oui, par exemple, le pont aérien dont on nous parlait avec la Chine, je ne sais pas trop bien où il en est. Je ne sais pas si le pont s'est écroulé ou s'il continue à fonctionner. Donc, je n'ai pas de réponse à ça. Je dis simplement que le gouvernement, dans une période comme celle-là, il doit mesurer sa parole et faire très très attention à une dispersion de la parole, voire même à des ordres et des contre-ordres. Alors, je sais que c'est pas simple, hein, c'est pas facile, mais enfin, les gouvernements, ils sont plus aujourd'hui là pour faire des choses simples. Donc, il faut beaucoup de cohérence. Et moi, j'attends du Premier ministre qu'il donne définitivement une cohérence à ce déconfinement sanitaire et à ce déconfinement économique. Les deux vont ensemble. La France, on peut dire aux gens restez chez vous, on est tous chez nous, mais à un moment donné, il faut leur dire aussi restez chez vous ou allez sur votre lieu de travail et vous obtiendrez la même sécurité sur ce lieu de travail que chez
mais
vous.
Attendez, Éric Woerth, si ça n'est pas le cas, est-ce qu'on leur dit restez chez vous parce que désolé, on a pris du retard et qu'on va prendre une semaine de plus à avoir les masques, ou alors on leur dit venez travailler et puis il y en aura peut-être un sur deux qu'on aura un.
Non, on peut pas plaisanter avec la sécurité sanitaire. On peut pas le faire. Beaucoup d'entreprises, notamment des grandes, hein, c'est vrai, mais beaucoup d'entreprises se sont fournies pour faire en sorte que leurs salariés soient protégés.
Pas toutes,
donc il faut
loin
commencer
de là.
Par toutes celles. Vous savez, il faut déjà commencer par toutes celles qui en disposent. Il faut commencer aussi par le BTP qui a beaucoup travaillé sur les conditions. Les autres pays, mais comment font les autres pays? L'Allemagne travaille. L'Allemagne industrielle travaille à 80% entre le télétravail télétravail et les personnes sur site. Les Pays-Bas, plus de 70%. La Grande-Bretagne à plus de 70%. Nous, on est grosso modo dans le domaine industriel, qui est le domaine clé, qui est le moteur de l'économie et qui tire aussi les services. On doit être entre 55 et 58%. Donc, il y a un moment donné, il faut qu'on rattrape ce retard vis-à-vis des autres pays, sans évidemment, bien sûr, baisser les bras sur la sécurité sanitaire. Sinon, pourquoi avoir fait tous ces efforts si c'était pour avoir un rebond de l'épidémie?
Question de Françoise Fraisseuse.
Quelle est votre position personnelle sur le traçage numérique et quelle est la position du groupe Les Républicains sur cette question compliquée dans le cadre du déconfinement?
Écoutez, la position du groupe, elle sera arrêtée en réunion de groupe avant le vote. On verra aussi de quoi ce que propose le gouvernement. Je pense qu'il faut qu'on utilise tous les outils à notre disposition pour stopper cette propagation du virus. Bon, à partir du moment où ça rime avec le mot de liberté. Au fond, la santé et la liberté, c'est deux aspect de la dignité humaine. Et je pense que si le gouvernement veut employer cet outil, il doit donner des garanties, pas des garanties politiques, il doit donner des garanties claires, des garanties juridiques sur lesquelles il y a des responsabilités qui pourraient être engagées sur
Donc le traçage,
fait que
pourquoi pas.
Ce ne sera pas attentatoire aux libertés, les conditions d'archivage, les entreprises qui travaillent et qui sont derrière cela sur des technologies auxquelles les Français et moi-même d'ailleurs ne comprenons strictement rien. Savoir si des entreprises américaines ou des entreprises étrangères sont concernées. Enfin bref, que ça ne limite pas la liberté. Et je pense que notamment l'archivage est un point fondamental. On n'a pas archivé numériquement les relations que vous avez eues pendant quelques jours, voire pendant quelques semaines ou quelques mois, puisqu'il faudra du temps.
Françoise Fraisseuse.
Oui, ça veut dire que vous n'avez pas arrêté votre position pour le moment.
Non, il n'y a pas de position de groupe. Moi, j'ai arrêté ma position moi-même, pour moi-même.
C'est-à-dire oui
comme,
ou non?
Comme beaucoup de mes collègues.
Je n'ai pas compris.
Je dirais oui, mais c'est très clair ce que je dis. Je dirais oui si le gouvernement est suffisamment clair sur les garanties techniques qui sont derrière cette application. Si le gouvernement ne l'est pas, alors il ne faut pas le faire. Et donc, au gouvernement de trouver les mots, mais aussi les textes, pour indiquer qu'il y a une garantie totale de respect de la liberté fondamentale. Pas d'archivage des données, etc. etc.
Karine Bécard.
Ce qu'on observe depuis le début de cette crise sanitaire, et surtout depuis ces 6 dernières semaines, c'est que les gens les plus utiles aujourd'hui, ce sont finalement les gens parmi les plus mal payés. Est-ce que ça veut dire, Éric Woerth, qu'il va falloir assez vite organiser ce qu'on pourrait appeler un Grenelle des statuts et des salaires? Est-ce que c'est nécessaire d'en passer par là? Est-ce qu'il va falloir le faire?
En tout cas, ce serait mieux de tirer les conséquences de cette crise que de ne pas les tirer, même si la nature humaine fait que souvent on ne tire pas tout à fait les conséquences des choses. Mais je crois qu'il faut réfléchir à la mondialisation, il faut réfléchir aussi aux frontières, à la souveraineté européenne. Tous ces sujets, ils vont venir, il ne faut pas qu'ils viennent de façon caricaturale. Les grands sujets, ils sont mondiaux et ils vont le rester. Les pandémies, c'est mondial. L'écologie, c'est mondial. Voire même le numérique, on en parlait, les réponses sont mondiales. Si on veut un numérique respectueux des libertés des uns et des autres. Et il ne faudrait pas confiner les États après avoir confiné les individus et les entreprises. Après, il faut évidemment qu'il y ait une revalorisation. L'utilité sociale, au fond, est quelque chose de très, très important. Mais elle doit aussi, pour être payée à sa juste valeur, il faut trouver les moyens de le faire. Pour trouver les moyens de le faire, il faut créer plus de richesses en France. Plus de richesses en France, ça veut dire qu'il faut travailler plus longtemps, tout au long de sa vie. Il faut sans doute aussi être plus productif.
Là, je veux bien
les entreprises dire. Qui vont reprendre le chemin du travail, elles seront moins productives qu'avant, parce qu'elles devront respecter des règles de sanitaires qui les rendront moins efficaces qu'auparavant.
Oui.
Donc quand nous aurons retrouvé un rythme de croisière, et ce rythme de croisière, il faut qu'il soit plus fort qu'auparavant, avec des modes de consommation différents, et à ce moment-là, les entreprises auront les moyens, ou l'État aura les moyens de payer mieux ceux dont l'utilité utilité sociale est considérée comme plus importante. Mais je pense que chacun a une utilité sociale. Au fond, aujourd'hui, on fait des comparatifs. Mais chacun a une utilité sociale. On voit bien qu'on ne peut pas fonctionner comme ça. Et donc, si on veut augmenter globalement les salaires en France, il faut augmenter la production de richesses et probablement baisser la dépense publique. Je sais que ce n'est pas très populaire que de dire cela en ce moment, mais baisser la dépense publique, c'est surtout la rendre plus efficace.
Karine Becker, vous vouliez réagir ?
Oui, je veux réagir parce que je trouve que c'est un petit peu contradictoire ce que vous êtes en train de dire. Finalement, la relance de notre économie, vous la voyez en travaillant plus, il va falloir que les salariés travaillent plus, c'est ce que vous venez de dire. Et puis finalement, on a aussi tous ces futurs probables chômeurs, ces CDD, ces intérimaires, ces nouveaux entrants sur le marché du travail qui vont sans doute devoir accepter d'être moins bien rémunérés. Donc est-ce que vous êtes certain d'avoir envie de ce Grenelle, en tout cas de penser qu'il est nécessaire de revaloriser l'utilité sociale de chaque salarié? Je trouve que votre discours est contradictoire.
Non, il n'est pas du tout, j'ai pas dû être suffisamment clair, je crois qu'il n'est pas du tout contradictoire. Je pense que globalement, le nombre d'heures travaillées en France doit être plus important. On rentre plus tard sur le marché du travail, on part plus tôt. Je renvoie à ce débat, on a l'impression que c'était à un autre moment, c'était au fond il y a deux mois sur les retraites. Je pense au temps de travail, je pense au nombre de chômeurs. Donc le nombre d'heures de travail doit être plus important si on veut produire plus de richesses et la distribuer entre tous les Français. On est le pays qui travaille quasiment le moins en nombre d'heures par Français, en nombre d'heures divisé par le nombre d'habitants. Donc il faut le faire. Maintenant, à court terme, le risque fondamental, c'est un krach social. Il y a vraiment une augmentation très puissante du chômage. Pour éviter cela, il faut que la machine, elle reparte le plus vite possible et que les employeurs reprennent le plus vite possible les personnes qu'ils ont en responsabilité. Et il faut aussi que l'État s'allège sur ce qui n'est pas essentiel. La priorité est évidemment à la santé, probablement à la souveraineté militaire, sans doute à l'éducation, mais l'État ne peut pas tout faire. Et on le voit bien, les États vont sortir de cette crise avec des monceaux de dettes. Oui. Il n'est pas question de faire payer ces dettes par des générations futures. Donc il faut que l'État lui-même réfléchisse interventions et à la programmation de ces interventions.
Et pourtant, il faudrait bien que quelqu'un paie la dette et a priori, ce seront les générations futures.
Ben, il faut éviter cela parce qu'il n'y a pas de raison de mettre à la charge des générations futures une crise qui concerne notre génération. Et les générations futures, elles vivront d'autres crises. Les crises centenaires contre lesquelles on essayait de ne pas s'assurer parce qu'elles étaient centenaires, on les amortissait sur 100 ans, ben, les crises centenaires, elles sont décennales. Et donc on ne va pas regarder le mur de la dette augmenter et se dire que finalement, le mieux c'est de le reporter ou tout simplement de l'annuler, ce qui revient à peu près à la même chose. Non, il faut un mode de consommation, un mode de production qui soit différent. Il faut penser une mondialisation évidemment différente. Et il faut des mécanismes.
Et augmenter les impôts.
Non, il faut pas augmenter les impôts. La France est déjà l'un des pays ou le pays le plus fiscalisé au monde. Donc on l'a déjà utilisé. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut augmenter et accélérer la reprise, ne plus être à 1,5 de croissance, il faut être à plus de croissance, il faut que les taux d'intérêt restent bas. Si les taux d'intérêt augmentent, alors on sera très très mal. Donc il faut que les taux d'intérêt restent bas, et c'est de la responsabilité des banques centrales. Et puis il faut retirer doucement les mesures budgétaires et avoir un plan d'investissement extrêmement fort pour augmenter la productivité du travail. Il faut un suramortissement des investissements. Il faut un plan d'investissement comme on a fait les PIA, qu'on a inventé les plans d'investissement l'année en 2008. Il faut un vrai plan d'investissement. Il faut faire sortir l'épargne des Français vers l'investissement et vers la consommation. Enfin,
donc,
il y a beaucoup
plutôt
de choses à faire.
Comme il y a un livret A, vous proposez un livret C comme coronavirus.
Par exemple, il y a 55 ou 60 milliards d'euros, probablement plus à la fin de la crise, de surépargne par rapport à l'épargne d'habitude qui est déjà très élevée. Pourquoi ? Parce qu'on est chez nous, parce qu'on consomme moins, et que les revenus, en dehors des professions libérales ou d'un certain nombre de catégories, grosso modo, les retraites sont payées, les fonctionnaires sont payés, et les salariés sont soit au travail, soit en chômage partiel. Donc, nous avons besoin que cette épargne, elle soit utile. Alors, elle doit d'abord être utile à la consommation, bien sûr, elle doit sortir des livrets dans lesquels elle est ou des comptes bancaires, mais elle doit aussi être utile pour soutenir l'investissement et notamment l'investissement sur l'industrie et sur notre capacité à peut-être réinventer redire que l'industrie est au cœur du fonctionnement de l'économie française. Et puis il faut quelques plans, quelques coups de pouce sectoriels. Je pense évidemment, on a parlé des restaurants, du tourisme, du secteur culturel, du petit commerce, de toutes ces toutes petites entreprises qui font la vie en société et qui elles sont extrêmement extrêmement touchées par ce drame.
Et justement, puisque vous parliez du tourisme, Nathalie Saint-Cricq.
Oui, Rugvert, a priori, les vacances s'approchent. Est-ce que vous pensez que la nation est apte psychologiquement à entendre qu'il va falloir travailler plus, peut-être prendre moins de vacances, limiter les jours fériés, bref, se remettre au travail très vite, et puis que les vacances, on verra ça l'année prochaine.
Il faut pas troquer, je pense, le discours anxiogène sur la pandémie, qu'on a quand même forcé beaucoup, avec et y ajouter un discours anxiogène sur au fond les conditions justes de la pré-crise. Je pense qu'il y a un sas obligatoirement psychologique. Le confinement chez soi, c'est pas des vacances, c'est au contraire source de beaucoup de crispation et de tension. Donc quand je dis travailler plus, je le dis d'une manière globale, je le dis pas uniquement pour lundi prochain. Évidemment qu'il faut que ça reprenne.
Mais est-ce qu'on
que les Français puissent partir en vacances.
Justement, vous conseillez aux Français de reporter leurs vacances ou de ne pas trop penser aux vacances d'été?
Non, mais moi je pense que les Français, ils doivent partir en vacances. Il y a un moment donné, c'est nécessaire. C'est nécessaire si on veut avoir des gens en bonne santé et en bonne forme psychologique. On va pas ajouter aussi une crise ou une psychose nationale, psychose qui existe aujourd'hui. Moi je suis pas psychologue, mais je vois bien que les Français, ils ont besoin à un moment donné de respirer et de changer d'air. On est tous comme ça, donc chacun peut très très bien le comprendre. Donc on doit pouvoir allier l'idée d'une reprise rapide, d'une remise au travail progressive du pays, mais extrêmement ordonnée, extrêmement organisée. Si on accepte des chiffres qui sont ceux d'aujourd'hui, c'est-à-dire une récession grosso modo à 10%, peut-être plus, des montagnes de dettes, un État qui n'a plus de critères en ce qui concerne ses déficits publics. On peut accepter ça pendant très peu de temps. On peut pas banaliser ce discours-là, mais ça nécessite évidemment de reprendre le travail. Et pour reprendre le travail dans de bonnes conditions, il faut aussi un sas de décompression d'après-confinement, et les Français doivent prendre leurs vacances d'été comme ils pensaient devoir le faire, peut-être en l'étalant un peu plus, peut-être ça dans chaque entreprise, chacun verra, mais il y a évidemment ce temps de vacances, il est très important, donc il faut le préparer. Oui. Il faut le préparer, il faut que les hôtels soient prêts pour cela, que les campings soient prêts pour cela, il faut pouvoir se déplacer entre les régions, parce que je pense que peu iront à l'étranger. De toute façon, on n'en aura quasiment pas l'autorisation.
Merci Eric Woerth d'avoir répondu à nos questions ce dimanche. Histoire à suivre. Bon dimanche, il est midi 31 sur France Inter. Questions politiques continuent avec Nathalie Saint-Cricq, Françoise Fressoz et Karine Bécard. Et à suivre la deuxième partie de l'émission avec le président de la Commission de l'Environnement et de la Santé publique au Parlement européen, l'eurodéputé Renew, Pascal Canfin.
France Inter, Ali Badou, question politique.
Bonjour Pascal Canfin.
Bonjour.
Merci d'être à l'antenne de France Inter. Première question, la même que celle que je posais à Eric Woerth. Est-ce que la France est prête pour le déconfinement ?
Je pense qu'aucun pays n'est prêt par construction à affronter quelque chose qu'il n'a jamais affronté par le passé. Et donc nous verrons bien, et c'est à chacun d'entre nous d'être à la fois responsable, rationnel, prudent. Voilà, la réponse, elle va s'écrire on va écrire l'histoire en quelque sorte, on peut pas préjuger.
On va écrire l'histoire, mais comment être prudent par exemple lorsqu'on sait qu'il sera impossible de respecter les distances de sécurité dans les transports publics ? Je pense aux bus, aux RER, aux métros par exemple, si l'on est parisien, marseillais.
Tout à fait, c'est pour ça que les consignes seront très probablement, un, de continuer à essayer de ne pas les prendre si on peut faire autrement, donc télétravailler ou aller au travail en vélo. Je pense qu'il va y avoir énormément d'utilisation du vélo. Les maires s'y attendent et commencent déjà à amener à aménager l'espace public en conséquence, parce que ça permet à la fois d'aller plus loin, plus vite, tout en étant seul, donc a priori plus protégé. Et puis, il va falloir sans doute porter des masques dans ce genre de circonstances, les transports en commun comme d'autres lieux collectifs. Voilà, on va s'adapter et honnêtement, personne n'a de solution magique. La seule solution magique, c'est le vaccin. Le vaccin, il va falloir encore des mois avant de le trouver. Et donc, tant qu'on va être dans cette période un peu intermédiaire, il va falloir s'acclimater de ces nouvelles obligations sociales.
Nathalie Saint-Cricq.
Alors, dans un sondage IFOP, sondage IFOP, seuls 39% des Français jugent que le gouvernement fait face efficacement au corona. Ils étaient 46 une semaine plus tôt. Et manifestement, il y a une spécificité française, c'est de trouver que le gouvernement s'y prend moins bien. Vous qui avez un panorama européen, vous expliquez et vous attribuez ça à quoi?
Pascal Canfin.
C'est une excellente question. Merci de l'avoir posée. Je pense qu'il y avait une cote de popularité qui était un peu entamée avant la crise. Et finalement, les Français qui ne faisaient pas confiance au gouvernement avant la crise ne lui font pas confiance pour gérer la crise. Et les Français qui lui faisaient confiance avant la crise, globalement, lui font confiance pour gérer la crise. Ça n'a pas fondamentalement bougé les lignes. Après, viendra le moment de juger des décisions qui ont été prises.
Non mais pourquoi en France, Pascal Canfin, pour répondre vraiment à Nathalie Saint-Cricq, pourquoi est-ce que par exemple Angela Merkel a gagné en popularité de manière spectaculaire, que Boris Johnson lui-même a gagné près de 20 points dans les sondages et les enquêtes de confiance, et en France, Emmanuel Macron par exemple a gagné un peu en confiance, mais très peu par rapport aux autres? On est très loin de ces niveaux.
Les situations, on peut faire un tour d'Europe, mais les situations sont très différentes. À ma connaissance, Emmanuel Macron n'a pas été pendant plusieurs semaines en soins intensifs, ce qui est le cas du Premier ministre britannique. Et de fait, quand vous avez un Premier ministre qui est en soins intensifs et qui en sort, ça crée, quelle que soit la couleur politique, ça crée une forme
d'adhésion. Angela Merkel ne l'était pas non plus.
Derrière sa personnalité. Ça, c'était pour répondre à votre question sur Boris Johnson. Quant à Angela Merkel, qui n'a pas été en soins intensifs, ça ne m'a pas échappé. Vous savez aussi que l'Allemagne a été, en tout cas pour l'instant, beaucoup moins touchée du point de vue sanitaire, même si je mets une petite réserve, c'est que comme on ne compte pas, toujours pas en Europe, les mêmes choses, par exemple, lorsque quelqu'un en EHPAD en Allemagne décède, mais qu'il n'est pas prouvé que c'était lié au coronavirus, eh bien, comme on ne fait pas de test post-mortem, il ne compte pas dans les statistiques. Alors qu'en France, il va compter dans les statistiques avec le test. Et en Belgique, c'est même l'excès inverse en quelque sorte. C'est-à-dire que, quel que soit en gros le décès dans un EHPAD où il y a un coronavirus, on va considérer que c'est associé au coronavirus et que donc c'est la cause directe. Donc vous avez trois façons de compter la même chose. Aucune harmonisation européenne. C'est fait partie des choses pour lesquelles moi je plaide. Parce que, évidemment, la lecture politique, et c'est le sens de votre question, la lecture politique par l'opinion publique des décisions des gouvernements est très liée au fait qu'il y a une perception de l'urgence ou pas. Et donc, si on commence à ne pas compter la même chose entre trois pays voisins, la France...
Oh, j'aurais pu rajouter l'Italie, par exemple, et Giuseppe Conte qui est dans une situation comparable.
Les Pays-Bas qui comptent pas la même, etc. Donc, j'ai demandé depuis plusieurs semaines, mais pour l'instant, ça n'est toujours pas fait, ma grande surprise, quelque part, parce que ça me semblerait assez évident de faire ça, que l'on décompte la même chose au niveau des pays européens. De façon à avoir, non pas, c'est pas une question statistique, mon sujet, c'est une question politique, d'avoir une même lecture politique des différentes situations dans les différents pays.
Est-ce qu'à l'échelon européen, vous faites quand même le constat que si on fait le ratio entre le nombre de morts et la population, on n'est quand même pas dans le groupe de tête?
Pascal
plus exactement, on est dans le mauvais groupe de tête, c'est-à-dire ceux qui ont plutôt eu plus de morts que ce qu'ils auraient dû avoir.
C'est ça, exactement. On est à statistique non comparable, je le reprécise mais je ne redéveloppe pas, on est le quatrième pays européen le plus touché. Et donc on est très clairement, et il suffit d'avoir vu les hôpitaux et entendu les médecins ces dernières semaines pour savoir que ça n'est pas qu'un effet statistique, c'est juste évidemment une réalité. Cette réalité, elle s'explique, quand j'en discute avec le ministre de la Santé, par le fait qu'il y a eu quelques foyers, un dans l'Oise, un dans le Grand Est principalement, qui font que deux, trois régions françaises, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, le Grand Est, ont été surtouchées, comme la Lombardie, la Vénétie en Italie ou comme la région de Madrid en Espagne. Et c'est ça qui explique. C'est ça qui explique que la France est très au-dessus de la moyenne européenne. Et ça, je vais venir à la réponse politique européenne sur laquelle vous allez m'interroger, c'est ça qui explique qu'on ne peut pas accuser les Italiens, les Espagnols, ou nous, les Français, d'avoir d'être responsables de cette crise. C'est pour ça que nous, au niveau européen, nous voulons une réponse solidaire, parce que c'est dans ces moments historiques-là, lorsque quelqu'un de la famille européenne est touché par une crise extérieure plus qu'un autre, de manière totalement liée au hasard, hein, ça aurait pu être en Suède, ça aurait pu être en Finlande, il se trouve que c'est en Italie, en Espagne et en France, on doit être solidaire et avoir une capacité d'investissement et de relance commune. C'est une des très grandes batailles en ce moment qui se joue au niveau européen et qui est portée par la France et par le président de la République.
Karine Becker.
Pascal Canfin, vous êtes le président de la commission environnement du Parlement européen et vous avez forcément observé cette semaine l'État français qui a accordé un premier plan d'aide de 7 milliards à notre compagnie aérienne, Air France, 5 milliards également au constructeur automobile Renault. Est-ce que vous avez compris précisément quelles étaient les conditions écologiques qui avaient été exigées en échange ? Est-ce qu'elles vous semblent suffisantes ? Et puis j'ajoute même, est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'écologie, d'ores et déjà, finalement, n'est pas en grand danger ? Tout le monde en parle, c'est vrai, mais enfin, elle est quand même très vite mise de côté.
Alors, je vais vous répondre de manière très honnête sur Air France et Renault. Les intentions sont là. J'ai entendu les mots de Bruno Le Maire et je n'ai aucune raison d'en douter. En revanche, je suis d'accord avec vous. Les modalités concrètes ne sont pas encore négociées et mises en place. Et c'est pour ça que moi, je plaide depuis le début de cette crise sur la partie relance ou soutien aux entreprises, que sur le fait que nous devons négocier avec les entreprises qui vont être le plus soutenues par l'État. Donc on parle principalement des plus grosses, bien évidemment, dans les secteurs les plus touchés.
Bien sûr.
Et celles qui sont les entreprises les plus impactantes sur les enjeux climatiques. Et donc là, on a deux exemples, à savoir l'automobile et l'aérien, qui sont des sujets très impactants pour le climat, la pollution, tout le monde le sait. Eh bien, je plaide pour qu'il y ait des contrats de transition écologique qui soient négociés et signés par les entreprises concernées. En
donc une aide sous condition.
Renault et Air France. Et donc on les aide. De toute façon, on les aide. Hein, je veux dire, personne ne conteste le fait que, bien évidemment, la France doit aider Renault et doit aider Air France, parce que personne n'imagine qu'on sortira plus fort de la crise si Renault a fait faillite et si Air France a fait faillite.
Donc, mais il aurait fallu le faire sous condition.
La question n'est pas là. Donc on les aide. Mais c'est pas une question de conditionnalité. C'est une question de vision stratégique. Est-ce qu'on relance Renault pour en faire un constructeur toujours dépendant des voitures fossiles qui polluent beaucoup et qui émettent des particules fines responsables de, je le dis en passant, bien plus de morts que le coronavirus? Ou est-ce que, au contraire, on le relance, on le soutient bien évidemment, mais on oriente cet investissement vers la relance verte, par exemple la voiture électrique, la mobilité propre, etc., etc. Et pour l'aérien, la transformation du modèle économique des compagnies aériennes. Ça, c'est la question qui est posée. L'intention du gouvernement, elle est claire. Mais l'acte, pour l'instant, qui formalise cela, je suis le premier à le reconnaître, n'a pas été acté. Et donc, je l'attends toujours.
Donc, et vous êtes d'accord avec les ONG qui ont dénoncé un chèque en blanc fait aux grandes entreprises polluantes? Vous partagez leur inquiétude, voire leur colère?
Je pense que j'essaie d'avoir le point de vue équilibré. C'est-à-dire, c'est pas tout blanc, tout noir, pas caricatural. C'est l'intention est là. Je sais que les discussions ont eu lieu, je sais que les échanges sont là. D'ailleurs, j'ai bien noté que, vous avez peut-être vu passer, que j'ai lancé une alliance pour une relance verte au niveau européen, avec des grands patrons, des ministres, des parlementaires, des ONG, des syndicats. Et parmi les grands patrons, il y a celui de Renault, Jean-Dominique Senard. Et notamment Renault plaident pour justement un soutien, évidemment ils en ont besoin, mais un soutien qui soit lié à leur capacité de les aider à investir, par exemple, dans le véhicule électrique et à accélérer cette transition. Et La dimension, elle n'est pas que française, hein, elle est bien évidemment européenne, puisque, sans rentrer trop dans la technique, mais ces soutiens publics, ça s'appelle d'un point de vue juridique des aides d'État. Et ces aides d'État sont encadrées au niveau européen. Et donc, dès la semaine prochaine, la Commission européenne va devoir dire si les 7 milliards pour Air France, les 5 milliards pour Renault, mais demain l'Allemagne, on parle de 9 milliards pour Lufthansa, et ça sera pareil pour Austria, pour Alitalia, pour Iberia, et je ne veux pas vous faire toute la liste des compagnies aériennes et des constructeurs automobiles européens. Tous vont être soutenus. Et c'est très important qu'il y ait un minimum de cadrage commun, de conditions communes. Et c'est le travail que je mène en ce moment même, ce week-end, avec la Commission européenne, de façon à ce que, dès la semaine prochaine, la Commission européenne exige également la signature de contrats de transition écologique, pas forcément demain matin. L'enjeu majeur de l'ultra court terme d'Air France, c'est sa survie. Bon, mais par contre, dans 3 mois, dans 6 mois, quand le pic de la crise sera passé, alors il faudra avoir commencé à mettre en place les mesures de ces contrats de transition écologique de façon à allier les deux, en quelque sorte. Le sauvetage, parce que c'est nécessaire, et la transformation, parce qu'elle est totalement indispensable du point de vue climatique.
Françoise Fressoze.
Mais vous ne trouvez pas que l'Europe est quand même très à la traîne? On voit toutes les États prendre des décisions, y compris l'Allemagne, qui s'en sort mieux que les autres et qui aide massivement son économie. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous dire, en fait, on est en train de rater beaucoup de choses et on met quand même en danger, d'une certaine façon, la zone euro?
Pascal,
alors, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites et une qui est fondamentale qui reste à faire. Ce qui a déjà été fait, c'est par exemple les changements des règles de la Banque Centrale Européenne, puisque Christine Lagarde est allée encore plus loin que son prédécesseur Mario Draghi et en gros a fait sauter toutes les limites qui empêchaient la Banque Centrale de racheter directement des dettes des États et des entreprises. Donc ça, c'est une décision historique qui a été prise maintenant il y a plusieurs semaines, donc au tout début de la crise. Deuxième décision qui a été prise dès le début de la crise, c'est de permettre, en gros, d'utiliser ce qu'on appelle techniquement les clauses de flexibilité, c'est-à-dire de permettre aux États de faire autant de déficit public que nécessaire, à la fois pour faire le chômage partiel, etc., mais aussi pour réinvestir dans l'économie.
Oui.
Troisième mesure qui a commencé à être prise, c'est justement, puisque je parlais du chômage partiel, c'est de financer par des fonds européens, 100 milliards d'euros, hein, c'est pas rien, 100 milliards d'euros, le chômage partiel des Italiens, des Espagnols, des Français, etc., pour soulager les finances des États les plus concernés. Donc ça, c'est un début de solidarité sur un sujet particulier qui est le chômage partiel, qui touche quand même, je crois, 8 à 10 millions de personnes en France. Donc c'est pas une paille.
Oui.
Et puis le dernier sujet qui reste, et je reconnais que pour l'instant la décision n'est pas prise et on se bat pour ça au premier rang desquels encore une fois le président de la République, c'est d'avoir un vrai fonds de relance européen qui soit commun. Parce que c'est évident que, si je prends 2 exemples, l'Italie, l'Espagne, ce sont des pays qui ne vont pas avoir la capacité de s'endetter tout seul de manière stable, c'est-à-dire avec des taux d'intérêt très bas. On va devoir les aider et donc mutualiser une partie de la dette pour réinvestir. Non pas la dette du passé, mais la dette nécessaire là pour faire face à la crise actuelle. Il y a un pays, par exemple, dont on parle peu pour l'instant parce qu'il n'a pas été très touché sur le plan sanitaire, c'est la Grèce. Mais si vous imaginez la saison touristique telle qu'on peut la voir se profiler, c'est-à-dire très peu de tourisme international intra-européen, eh bien, ça veut dire que la Grèce, son économie, qui est très dépendante du tourisme, on le sait, ne va absolument pas repartir. Au contraire, elle va s'enfoncer cet été, là où d'autres vont repartir. Donc on voit bien qu'on a besoin de mutualiser une partie de la réponse, et les chiffres qui sont sur la table sont très importants, entre 800 et 1200 milliards d'euros, pour mutualiser ces efforts d'investissement, de relance, que ce soit dans le système de soins, dans l'économie, dans les PME, et évidemment dans le Green Deal et la transition écologique.
Ouais, et on sait que c'est pas encore gagné. Françoise Fressoze rapidement, puis Nathalie Saint-Cricq.
Mais oui, vous dites on a besoin, mais on voit bien que l'Allemagne, les pays du Nord freinent. Quels sont les atouts de la France pour essayer de faire pencher la balance? Comment est-ce que vous allez essayer de convaincre?
Pascal Canfin.
Alors, d'abord, ce qui est très important, c'est que la semaine dernière, la décision de mandater la Commission européenne pour faire une proposition ou 2-3 options très concrètes à très court terme, hein, on parle de quelques jours, a été prise par les chefs d'État. Donc ça, c'était la volonté française, soutenue d'ailleurs par l'Allemagne, de dire maintenant, on doit plus se contenter de grands principes ou de discussions théoriques, on va dire, on doit avoir une proposition concrète sur la table, sur des montants, chacun quand même doit réfléchir, on parle autour de 1000 milliards d'euros, c'est-à-dire la moitié du PIB français. Hein, on ne parle pas de quelques dizaines de millions d'euros quelque part. On parle de l'équivalent de la moitié de la richesse nationale produite en France qui serait levée en commun, investie en commun par l'ensemble des Européens à travers un fonds qui serait piloté par la Commission européenne. Quand on est à ce niveau-là de responsabilité et de montant, c'est normal que ça prenne un peu de temps. Je suis le premier à reconnaître que j'espérerais que ça aille plus vite encore, mais c'est normal que ça prenne un peu de temps. Maintenant, je crois qu'on n'est plus au principe, la question du principe est gagnée, on est sur les modalités. En gros, quel degré de solidarité, quel degré de prêt, quel degré de don, je ne vais pas rentrer dans les détails.
Oui, il n'y a pas d'accord sur le plan de relance, mais en tout cas une intention générale.
Oui, il n'y a pas d'accord, encore une fois. C'est normal que ça prenne quelques semaines pour se mettre d'accord sur un montant d'investissement à 1000 milliards d'euros en commun. De savoir qui doit payer quoi, qui est responsable de quoi, qui trace quoi, qui contrôle quoi, c'est normal. Ces questions sont fondamentales. Elles sont au cœur de ces questions politiques fondamentales. Oui. Donc c'est normal que ça prenne du temps, mais encore une fois, je reste positif. Pourquoi ? Parce que le principe est acté. Et je pense que dans quelques jours, la Commission européenne y travaille encore une fois ce week-end. Je pense que les premières propositions vont arriver dès la semaine prochaine. Et j'espère que la prise de décision pourra se faire dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent.
Karine Becker.
Restons sur cette question de la relance économique qui, évidemment, en ce moment est centrale. Est-ce que les pays du Sud de l'Europe ne sont pas en train de précipiter leurs opérations de déconfinement pour ne pas se laisser distancé, j'ai envie de dire concurrencé économiquement par les pays du Nord? Est-ce que la première des solidarités, justement, au sein de l'Union, ça aurait pas dû être de décider de relancer en même temps tous l'activité économique?
Vous pouvez pas. Alors, ça dépend de ce que vous appelez tous en même temps, parce que comme les situations sanitaires sont différentes, ce serait assez théorique et assez irresponsable, soit de continuer à confiner des gens pour rien, soit à accélérer le déconfinement de certains de manière trop risquée, parce que d'autres peuvent le faire, parce que justement la situation sanitaire est moins tendue. Donc c'est normal, dans la vraie vie, compte tenu des exigences sanitaires et des situations sanitaires respectives, que le déconfinement se passe de manière différenciée au sein des pays européens. Si la même règle est appliquée partout, vous serez les premiers à dire qu'est-ce que c'est que cette dictature européenne. Donc c'est normal. En revanche, ce qu'il faut, c'est de la coordination pour que les principes soient communs. Et ça a été fait, là aussi, décision vendredi dernier. L'agence qui s'occupe de ça, que personne ne connaît parce que personne ne regarde comment travaille l'Europe, notamment en France, ça s'appelle ECDC, qui est sous la responsabilité de la Commission. C'est elle qui fixe les principes qui sont ensuite suivis et mis en œuvre par les États en fonction de leur réalité sanitaire respective. Et c'est pour ça que même au niveau d'un seul État, prenons la France, eh bien la différenciation se pose entre les catégories, entre les territoires, entre le degré de densité des différentes zones, etc. Donc vous imaginez la différence nécessaire, mais avec des principes communs à l'échelle européenne.
Nathalie Saint-Cricq.
Le Conseil scientifique en France a considéré qu'il serait peut-être légitime d'interdire les déplacements interrégionaux. Est-ce que c'est envisageable que non seulement on interdise ça et qu'on interdise également à l'intérieur de l'espace Schengen, et bien que les gens ne puissent pas voyager, et ce, pour de longs mois éventuellement?
Voilà, c'est pour ça vos questions sont absolument fondamentales. Et quand on les pose de manière très concrète, comme vous venez de le faire, sur la vie quotidienne de chacun, est-ce que je vais pouvoir librement passer de l'Île-de-France à la Bretagne? Est-ce que je vais pouvoir passer librement de la France à la Belgique? C'est du quotidien pour les salariés, pour les entreprises, pour les familles, etc. Donc c'est normal que ça prenne un peu de temps de se coordonner, encore une fois. Faut pas être plus royaliste que le roi.
Non, bien sûr, mais malgré tout, il y a quand même des questions très simples. Quand le président de la République dit que Schengen restera fermé pour ses frontières extérieures, mais qu'on pourra circuler à l'intérieur, et que les Espagnols disent non, nous maintiendrons la frontière fermée avec la France, reconnaissez que là, il ne faut pas seulement du temps pour s'accorder, il faut juste aussi trouver une cohérence pour que les citoyens y comprennent quelque chose.
Absolument, et vous avez raison, c'est pour ça que trouver cette cohérence prend du temps, et si on va aller trop vite, on arrive à des déclarations contradictoires que vous venez de mentionner. Je suis entièrement d'accord avec vous. Quels sont les principes ? Je pense qu'au niveau d'un État, là, pour le coup, ça doit relever totalement de la souveraineté d'un État de décider s'il y a des limites aux échanges, aux déplacements à l'intérieur du même État. Moi, personnellement, je pense que des consignes de prudence seront nécessaires. De là à fragmenter le territoire français avec autant de régions où il y aurait des contrôles à chaque quand vous passez d'une région à l'autre, ça me semble un peu délicat et donc je pense qu'il faudra jouer sur la rationalité, la prudence et le bon sens.
Nathalie.
En revanche, je fais référence aux nations européennes. La Grèce, par exemple, souhaite avoir un certain nombre de touristes. Ce qui n'est pas le cas de l'Espagne. Donc, est-ce qu'on peut avoir une espèce d'Europe à 75 vitesses différentes où, et qui contrôlera ça, qui acceptera et voilà.
C'est un peu ça la question. Encore une fois, comme l'Europe en tant que telle n'a aucun pouvoir d'imposer quoi que ce soit aux États sur ces sujets, puisque l'Europe de la santé n'existe pas et comme la justification pour fermer la frontière ou empêcher un Espagnol de venir en Grèce, c'est bien une justification sanitaire, elle est totalement dans les mains des États membres, donc des gouvernements. Donc, si on veut créer un cadre commun, il faut le créer en marchant, puisqu'il ne préexistait pas, puisque les gouvernements ont toujours refusé de donner quelque pouvoir que ce soit à l'Europe en matière de santé. Parfois, ils peuvent aujourd'hui s'en mordre les doigts, mais c'est la réalité. Et donc, il faut coordonner. Et la coordination, elle dépend de la sensibilité des opinions publiques, elle dépend de la dépendance de l'économie nationale à un secteur particulier, ou le cas du tourisme. Et donc, c'est pour ça que, compte tenu de la complexité et de la différence des situations, ça prend du temps de se coordonner. Et peut-être, je ne veux pas préjuger, mais peut-être qu'on va se déconfiner de manière totalement désordonnée et que un Espagnol pourra aller en Grèce mais un Finlandais pourra pas et un Français pourrait potentiellement aller en Belgique mais un Belge pourra pas venir en France. C'est exactement la situation chaotique et incompréhensible pour les opinions publiques que l'on veut éviter. Et pour éviter ça, il faut partager les données, il faut échanger, il faut se convaincre que ce que je pense forcément chez moi n'est pas forcément la meilleure solution. Tout ça prend du temps, mais c'est toute la beauté et la valeur ajoutée de l'Europe.
Question de Françoise Fressoze.
Quelle leçon tirez-vous de cette crise qui, au fond, désorganise tout, y compris l'Union européenne telle qu'elle fonctionnait jusqu'à présent ?
C'est qu'on peut en sortir par le haut ou on peut en sortir par le bas. Je pense que cette crise va forcément augmenter certaines tensions géopolitiques. Je pense que la Chine a montré un visage plus dur. Il faut jamais oublier que le médecin qui a alerté le premier sur l'existence d'un virus inconnu que l'on commence à connaître maintenant, a été mis en prison et il est mort. Donc ça, c'est la situation de la Chine qui s'appelle une dictature. Et c'est de ce pays que tout est parti et il ne faut jamais l'oublier. Et donc je pense qu'ensuite, la Chine a en plus d'avoir était quand même très 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 mauvaise en matière de transparence au départ et d'avoir été dans une logique répressive et de cacher ce qui se passait. En plus, ensuite, elle a lancé un appareil de propagande à la limite de l'absurde pour essayer de montrer que tout était formidable et qu'elle aidait tous les pays du monde. Et d'ailleurs, elle a des relais politiques en Europe. Hein, et les deux pays qui aujourd'hui ont une politique de propagande très claire, ce qu'on appelle la diplomatie du masque pour les Chinois, c'est la Chine et la Russie, relayés par un certain nombre de partis européens, par exemple en Italie, le mouvement 5 étoiles, qui dit que la Chine, c'est formidable, etc., et que vraiment, l'Europe n'aide pas. Alors que vous prenez tous les chiffres, dans toutes les circonstances, il y a évidemment eu bien plus de solidarité européenne, que ce soit des transferts de patients, des achats en commun, des transferts de masques, etc., que de choses qui sont venues de manière spontanée et solidaire de la Chine.
Et malgré tout, Pascal Canfin,
puisqu'on achète des choses à la Chine, bien évidemment.
Pascal
et donc,
Canfin.
Je pense que cette crise, je conclue juste en disant que cette crise peut être le meilleur ou le pire, et c'est à nous d'écrire l'histoire.
À nous d'écrire l'histoire, mais l'histoire est aussi écrite par d'autres, en l'occurrence au sein de l'Union européenne. Quand vous regardez la Hongrie, quand vous voyez les méthodes de plus en plus autoritaires du Premier ministre Viktor Orban, lorsque vous voyez la façon dont il déploie l'armée, dont il vide les hôpitaux, dont il renforce son contrôle sur l'opposition dans un silence assourdissant de l'Union européenne, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard pour rappeler les règles qui font qu'on peut ou non appartenir aux 27 ?
Alors, vous avez absolument raison sur la situation, c'est-à-dire que toutes les règles d'état d'urgence permanent qui ont été prises par Viktor Orban sont des règles qui potentiellement, si elles sont activées, contreviennent aux libertés fondamentales. Et c'est pour ça que nous, au Parlement européen, et la Commission européenne a aussi envoyé ces messages, et un certain nombre de chefs d'État aussi, si jamais le Premier ministre, le gouvernement hongrois décidait d'aller dans cette direction, moi je ne vois pas comment, bien évidemment, l'Union européenne peut l'accepter. Et ne peut pas l'accepter, ça veut dire aller jusqu'au bout d'un conflit potentiel. Oui. Et je note à l'inverse, parce qu'il faut quand même que chacun prenne ses responsabilités, que le groupe politique dans lequel siègent les députés européens de Viktor Orban, donc qui les représente politiquement à Bruxelles, c'est le même groupe politique que les Républicains en France.
Le PPE.
Eh bien, les Républicains font partie des quelques délégations du groupe qu'on appelle le Parti Populaire Européen, donc le groupe de droite pour simplifier, qui continue de soutenir, c'est incroyable, la politique de Viktor Orban en lui trouvant toujours une bonne raison d'agir. Donc je pense, vous avez raison, là on est sur un test de droite, de démocratie tout simplement, on ne peut pas ne pas être une démocratie pleine et entière et être membre, comme si de rien n'était, de l'Union Européenne.
L'émission touche à son terme, Pascal Canfin. Très rapidement, beaucoup s'étonnent qu'on soit capable de déployer autant de moyens pour aider l'économie, mais pas quand on doit faire face à l'urgence climatique. Pourquoi ces deux poids, deux mesures, disent beaucoup?
C'est pour ça que je plaide précisément pour qu'on réinvestisse et qu'on fasse d'une pierre deux coups. On va réinvestir dans l'économie, parce que quand on perd 10% du PIB en quelques semaines, forcément tous les États européens, et c'est pareil pour les États-Unis et ailleurs, vont réinvestir, donc vont s'endetter. Et la question, c'est est-ce qu'on le fait en accélérant le mur climatique, oui, ou est-ce qu'au contraire, on fait d'une pierre deux coups et on transforme notre économie pour essayer de repousser la prochaine crise, qui est la crise climatique? C'est exactement le combat que je mène aujourd'hui en Europe.
Merci Pascal Canfin d'avoir répondu à nos questions. Bon dimanche, Questions politiques se termine. Merci Alexandre Gilardi et à toutes les équipes. On vous donne rendez-vous dimanche prochain.